todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana.
Jednostka ma prawo do życia, wolności i do pewności swojej osobowości.
ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ സുരക്ഷിതത്വത്തോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.
L'enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation appropriée pour lui permettre de mener une vie pleine et décente dans la dignité.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Everyone is equal in the eyes of the law and has the right to equal protection by the law.
Die Familie ist das natürliche Element und das Fundament jeder Gesellschaft und hat das Recht auf Unterstützung vom Staat und von der Gesellschaft.
Rodina je prirodzeným prvkom a fundamentom spoločnosti a má právo na ochranu štátom.
Alle Menschen wurden frei und gleich in Wahrheit und Rechte geboren. Sie zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest.
Bonjour, Amnesty International est heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2017. C'est Jean-Marie et Adeline. Bonjour Adeline.
Bonjour Jean-Marie, bonne année à tout le monde.
Bien sûr, on va souhaiter une bonne année aux auditeurs de FM+, en espérant qu'ils soient toujours aussi nombreux à l'écoute de cette excellente chaîne. Voilà, on fait un peu de promo, ça fait pas de mal en ce début d'année. Bon, ben nous on est là pour vous apporter des nouvelles des droits humains, des bonnes et des mauvaises. Mais d'abord, comment en ce début d'année, Adeline, je te propose de faire
on un bilan. On va commencer par les bonnes.
Voilà, les bonnes et un bilan. Amnesty a fait un bilan de ses actions l'année dernière quand même. Et voilà. Puis, bon, on a quand même des résultats, tu peux nous en parler.
On a quand même des résultats. Hein. Ça, c'est quand même, je crois, super important de toujours expliquer. Alors, en 2016, bon, toutes les actions d'Amnesty confondues, c'est-à-dire les pétitions, les lettres, les plaidoyers, les rapports, etc.
Les actions urgentes aussi.
Voilà, les actions urgentes ont quand même permis de libérer plus de 650 personnes. Alors, évidemment, dans la masse énorme de gens à défendre, ça peut paraître peu, mais ça, c'est quand même beaucoup, 650 personnes. Grâce à tous les gens qui se mobilisent pour Amnesty, on a réussi à contribuer à modifier la législation de 40 pays, parce que parfois, c'est pas seulement des prisonniers qu'on réussit à faire libérer ou dont les conditions vont s'améliorer, mais c'est aussi des législations comme par exemple sur les mariages forcés au Burkina Faso. Hein, et ben, toute la campagne d'Amnesty a réussi à ce qu'effectivement, aujourd'hui, dans la Constitution, dans la loi, il y a une modification contre ces mariages forcés. Voilà, donc c'est quand même beaucoup de choses. Alors on va en citer quelques-uns quand même. Donc oui. des prisonniers d'opinion. Hein. Bon, d'abord Albert Woodfox, hein, qui a quand même passé 40 ans en prison.
L'Américain.
Voilà, on a Mazen Mohamed Abdallah en Égypte, qui a été libéré. Constantine Bersorokavi en Ukraine. Pio Pio Hong au Myanmar, pour qui Amnesty s'était beaucoup mobilisé, notamment dans les 10 jours pour signer. José Marcos en Angola. Yesenia Armenta au Mexique. Les 17 jeunes militants angolais qui ont pu sortir de prison. Donc tous ces. Et Fred Boma en RDC, hein, pays qui aujourd'hui encore connaît énormément de troubles.
Oui,
voilà. Oma Outfar, l'Iranienne, la Canadienne iranienne, qui a pu être libérée d'Iran. Voilà, ça, c'est des prisonniers. Il y a aussi des gens, voilà, des groupes de personnes, hein, pour qui Amnesty a contribué à leur libération. En Irak, il y a quand même 293 personnes qui ont été libérées après avoir été détenues suite à une espèce d'action collective d'Amnesty. On rappelle quand même les procès, comme par exemple le criminel de guerre au Tchad, qui a été condamné, il s'est nabré. Des jeunes mineurs pour qui Amnesty s'était mobilisé, comme l'adolescent iranien qui a pu échapper à l'exécution. Et donc, je disais tout à l'heure, voilà, des soutiens d'Amnesty, des campagnes d'Amnesty qui ont permis de modifier des législations. Donc le Burkina Faso, qui, ça y est, en tout cas, officiellement, s'attaque au mariage forcé. Au Malawi, une nouvelle loi qui protège les personnes atteintes d'albinisme, tu sais, ce grand trafic qu'il y a contre les enfants albinos.
Ouais, les pauvres enfants, ouais.
Des progrès dans la lutte contre la torture, en Guinée, au Togo et même au Canada. En Arabie Saoudite, je crois que tu vas nous en parler tout à l'heure, les bombes à sous-munitions qui ont été suspendues, des pays qui abolissent la peine de mort. Et puis, quand même, en Europe, parce que parfois on a l'impression que l'Europe n'a rien à faire, mais pas du tout. C'est la fin pour le vide juridique dans l'Union européenne qui a voté contre l'usage d'armes ou d'équipements qui peuvent contribuer à la torture. Bon, sans oublier la lutte historique des Polonaises, hein, en Pologne, les femmes de Polonaises qui ont obtenu un revirement concernant une proposition de loi visant à interdire l'avortement. Donc voilà, tout ça, ce sont des combats d'Amnesty qui concernent soit des personnes, soit des droits humains, et qui, petit à petit, eh bien, finissent par aboutir. Donc pour nous, c'est quand même une grande satisfaction. Donc on espère qu'en 2007, voilà, on aura encore 2017. Plus de gens... 2017, oui, 2017. Pas 2007, 2017. Voilà, il y aura encore plus de gens qui soutiendront les campagnes d'Amnesty pour que les droits humains continuent à être défendus dans le monde.
Bon, et on remarque avec la liste des pays que tu as donnée, donc Amnesty International est vraiment une organisation internationale, hein, puisque on travaille un peu tous azimuts pour défendre les droits humains où qu'ils soient. Hein.
Où qu'ils soient, quels que soient les régimes politiques.
Tout à fait. Voilà. Bon, mais si tu veux, je vais continuer en parlant d'une actualité, ce qui est celle de la bataille de Mossoul en Irak, hein, puisque Mossoul est actuellement les armées irakiennes et la coalition internationale essaient de reprendre cette ville à l'État islamique, hein, entre guillemets.
Oui, parce que la guerre, en fait, n'est pas du tout finie. Il y a eu un espèce de dénouement, plutôt heureux pour les droits de l'homme, mais la guerre n'est absolument pas finie dans cette partie
Syrie,
du monde.
Ni en Syrie, ni en Irak. Hein, voilà. Donc là, on va parler de l'Irak, puisque les pauvres civils, comme d'habitude, sont entre exaction de l'État islamique et représailles des milices. Hein. Donc c'est une chercheuse sur l'Irak à Amnesty qui s'appelle Diana El-Tahawi, qui a publié un rapport dont je vous donne quelques extraits. Hein. Alors que l'offensive lancée pour reprendre Mossoul, tombée aux mains du groupe État islamique, dure depuis plusieurs semaines déjà, bon, et on prévoit qu'a priori il devrait encore durer plusieurs mois, c'est très difficile, hein. Des informations ont révélé toute la brutalité du joug de ce groupe et les exactions commises par les milices. Exemple, découverte d'un charnier où sont enterrés les dépouilles de 300 anciens policiers. Recours à des substances chimiques lors des attaques. La liste des atrocités que la population civile a été contrainte de subir aux mains de l'EI semble interminable. À ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité viennent s'ajouter le déplacement forcé de civils et l'utilisation de ceux-ci comme bouclier humain par les combattants du groupe armé qui, perdant du terrain, tentent ainsi de contrer l'avancée des forces irakiennes. Tous les civils qui ont fui les villes et les villages sous la coupe de l'EI et que nous avons rencontrés, donc c'est l'enquêtrice hein, qui parle avec d'Amnesty, oui, durant les 3 semaines de notre mission de recherche, ont partagé avec nous les terribles épreuves qu'ils ont endurées. Je cite une personne. Nous avons vécu un cauchemar pendant 2 ans, a confié Mohamed, nom changé, hein, interrogé sur la vie sous le régime de l'EI à Mossoul. Il a notamment été contraint d'assister à la lapidation en public d'un couple accusé de zina, d'adultère. « La scène me hante encore aujourd'hui », dit-il. Les pierres atteignaient la tête de cette femme, qui portait un voile intégral, et le sang jaillissait. Un homme a raconté qu'un attentat suicide meurtrier avait été perpétré par l'EI contre un Umer de l'armée stationné dans la rue où il habitait, dans l'est de Mossoul. La déflagration a été si forte que le réfrigérateur a été projeté à l'autre bout de notre maison. Ma famille a eu de la chance, nous étions tous indemnes, mais les maisons de 2 de nos voisins se sont effondrées, écrasant tous ceux qui étaient réfugiés. J'ai vu de la chair humaine dans les décombres. À Al-Kiyara, ville située au sud de Mossoul, nous avons recueilli des éléments laissant penser qu'une attaque chimique y aurait été perpétrée par l'EI le 6 octobre 2016. Selon des témoins, les projectiles remplis d'un liquide visqueux jaunâtre et dégageant une forte odeur d'ail ou d'oignon ont atterri sur un café local et la maison d'une famille. Les personnes exposées à ces projectiles se sont plaintes de plusieurs symptômes avant de voir arriver des cloques sur leur peau. 2 spécialistes des armes chimiques consultés par l'organisation ont confirmé que ces symptômes correspondaient à une exposition au gaz moutarde. Une fillette de 4 ans, blessée pendant l'attaque, se trouvait alors dans le jardin d'un proche. Nous ne savions pas qu'il s'agissait d'une substance chimique. Nous l'avons simplement lavée à l'eau. Le lendemain, des cloques sont apparues sur sa peau. D'abord de petite taille, elles ont ensuite grossi, faisant beaucoup souffrir la petite, a expliqué son père, ajoutant qu'il n'avait pas les moyens de lui prodiguer les soins dont elle avait besoin. Alors après des années d'informations et de récits sur les atrocités dont se rend coupable l'EI en Irak, en Libye et en Syrie, ces terribles témoignages ne surprennent malheureusement pas, mais demeurent tout aussi choquants. Hein. Alors, cependant, les combattants de l'OUI ne sont pas les seuls à commettre des violations en Irak. Et les civils qui ont fui le régime depuis le début des opérations n'ont pas toujours été protégés dans les lieux où ils avaient cherché refuge. Amnesty a recueilli des éléments montrant que des milices soutenues par le gouvernement, appelées Unité de mobilisation populaire, et des milices sunnites de la mobilisation tribale, je cite, exerçaient des représailles contre les civils parce qu'elles les tiennent responsables, semble-t-il, des atrocités de l'OUI. Un homme, père de 3 enfants, qui a fui son village le 4 novembre, a expliqué que les combattants des unités de mobilisation populaire avaient séparé les hommes et les adolescents âgés de 15 à 45 ans du reste des villageois avant de les menacer et de les humilier. Les unités de mobilisation populaire nous ont obligés à nous déshabiller et nous ont ordonné de nous aligner et de poser les mains sur les épaules de la personne devant nous. Ils nous ont ensuite fait marcher pendant qu'ils nous insultaient, nous assimilaient à Daesh et nous obligeaient à aboyer comme des chiens et à braire comme des ânes. Il a ajouté que les miliciens avaient menacé de les tuer et que l'un d'entre eux avait brandi une hache dans leur direction. Les villageois qui ont fui le secteur de Bartala ont raconté que près de 60 hommes avaient été détenus dans une salle de classe par des combattants de toujours cette unité de mobilisation populaire. 11 d'entre eux, soupçonnés d'être membres de l'OUI, ont été roués de coups au moyen de barres métalliques. D'autres habitants de villes et de villages situés au sud de Mossoul ont confié que des combattants de la mobilisation tribale avaient pillé et saccagé leurs maisons ou les avaient détenus arbitrairement, torturés ou autrement maltraités, les accusant de soutenir Daesh. Des miliciens se sont vantés auprès de nos chercheurs d'avoir fait sauter des maisons de Daesh et puni des combattants et les proches de leurs crimes. Voilà, donc à moins que les autorités irakiennes ne mettent rapidement au pas ces milices qui n'ont pas à répondre de leurs actes, il existe un risque réel que celles-ci s'enhardissent, faisant elles-mêmes la loi et se livrant à des actes de représailles contre les personnes qu'elles estiment avoir soutenu l'OUI ou étaient proches du groupe armé. Voilà, donc cette situation qui, je rappelle, au moment où on fait cette émission, perdure, hein, puisqu'on annonce qu'il faudrait encore 1 à 3 mois pour que la ville de Mossoul soit entièrement reprise. Et il n'est pas dit qu'à la fin de cette reprise, hein, qui est quand même annoncée, ces exactions ne continuent pas.
Ce qui montre bien qu'une fois de plus, sont les populations civiles, de toute façon,
qui sont
exposées et
les premières victimes
défendues.
Mais il faudrait t'aborder pour moi, ça rien que d'y penser. Moi je n'ose plus respirer, car si tu te moques de moi, je ne supporterai pas. Plus le temps passe et plus tu te lasses, je n'ose pas faire le premier pas. Oui, mais voilà, t'es trop jolie pour moi.
De nouveau Amnesty International sur les ondes. Bonjour Jean-Marie.
Eh bien, rebonjour Adeline, toujours sur Radio FM+.
Voilà, alors on va vous donner des petites nouvelles du monde, hein, parce que vous savez que ça fait partie des choses qu'on a l'habitude de faire. On va parler d'Israël et de la Turquie. Il y a eu une résolution historique du Conseil de sécurité de l'ONU concernant Israël. Alors bien sûr, c'est une résolution, donc nous appelons de tous nos voeux que cette résolution soit mise en application, mais déjà, elle a été adoptée. À la suite de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a une résolution demandant à Israël de mettre un terme à toutes les activités de colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Hein, c'est toujours cette histoire des colonies qui, malgré le fait qu'il y ait et la bande de Gaza et la Cisjordanie qui sont normalement officiellement reconnus comme étant des territoires palestiniens, les colonies continuent à se construire et donc empêchent ces territoires de devenir vraiment des territoires autonomes. Shirin Tadros, qui est responsable du bureau d'Amnesty International auprès de l'ONU, nous a déclaré la chose suivante. Clôturant une année déplorable pour le Conseil de sécurité, ça c'est vrai, où les divisions ont à maintes reprises bloqué l'adoption de résolutions clés visant à protéger les populations les plus exposées, la décision du 23 décembre d'adopter une résolution condamnant les colonies israéliennes illégales est vraiment la bienvenue. C'est la première fois en presque 40 ans qu'une telle résolution est adoptée. Pendant cette période, l'extension des colonies s'est poursuivie à un rythme accéléré. Cette résolution englobe une demande cruciale, à savoir la cessation immédiate par les autorités israéliennes de toute activité de colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Ces activités constituent une violation flagrante du droit international humanitaire et, selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale, constituent un crime de guerre. Nous saluons également le fait que la résolution reconnaisse le caractère illégal des colonies israéliennes. On rappelle qu'Amnesty International est mobilisée depuis des années sur cette question. La politique israélienne d'expansion des colonies est par nature discriminatoire et s'est toujours traduite par de graves violations des droits humains, notamment la destruction d'habitations, parce qu'évidemment, pour construire des colonies, il faut commencer à faire de la place.
Trouver du terrain, oui.
Donc des expulsions forcées, des prises de terres, des homicides illégaux, des détentions arbitraires et des sanctions collectives. Alors, maintenant que cette résolution a été adoptée, évidemment, le Conseil de sécurité, son travail, c'est de veiller à ce que cette résolution soit respectée et soit appliquée. Et en fait, Amnesty demande même à ce que le Conseil de sécurité aille plus loin et exige que l'État d'Israël s'acquitte de son obligation légale de cesser l'implantation des colonies, parce qu'encore faut-il ne pas les continuer, donc arrêter immédiatement, mais aussi démantèle les colonies, parce que tant qu'elles continuent à exister, forcément, tout ce territoire est maillé de colonies. Et il faut savoir que dans ces territoires palestiniens où les colonies sont implantées, il y a des routes différentes, puisqu'on ne peut pas, aller librement, on ne peut pas circuler librement. Donc tout ça empiète sur les terres des gens. Et donc Amnesty demande à l'État d'Israël de réinstaller ses colons en dehors des territoires palestiniens occupés. C'est vraiment le seul moyen si on veut arriver un jour, à une paix juste et durable. Donc on se félicite, Amnesty se félicite de cette résolution et sera extrêmement vigilante pour savoir si effectivement cette résolution va être appliquée, pour voir, on espère que les colonies seront démantelées, mais au moins qu'il n'y en ait plus. Parce que si, quand l'ONU prend une décision, les pays qui siègent eux-mêmes à l'ONU ne la respectent pas, c'est un petit peu désespérant.
Voilà. Signaler quand même que le Premier ministre Netanyahou a dit qu'il ne tiendrait aucun compte de cette résolution, déjà. Donc, on va voir si le nouveau secrétaire général de l'ONU
est capable de faire respecter décisions qui sont prises, parce que sinon, c'est pas la peine de prendre des décisions.
Oui. Et quelle sera la position du prochain président des États-Unis, sur lequel on a quand même des craintes.
Alors, un autre pays maintenant dont on parle beaucoup, c'est la Turquie, malheureusement. Bon, d'abord parce que très récemment, ils ont subi un attentat.
Un de plus.
Un de plus, avec malheureusement toujours des populations civiles.
Beaucoup de
morts. Beaucoup de morts. Mais là, ce dont on veut vous parler, rappeler que depuis le coup d'État manqué de cet été, il y a 36 000 personnes qui ont été incarcérées en Turquie. Il y a tellement de gens incarcérés que la justice turque a reconnu qu'elle avait dû faire sortir 30 000 personnes de droit commun. Elle avait une espèce d'amnistie.
Il faut aller faire de la place.
Pour faire de la place pour des personnes qui, elles, sont plutôt des prisonniers d'opinion.
Prisonniers politiques, on peut le dire.
Donc il y a énormément, ça a touché toutes les catégories de la société, énormément de journalistes. Il y a plus de 42 journalistes qui sont emprisonnés actuellement, des journaux qui ont été fermés, des radios qui ont été fermées, des milliers de juges.
Fonctionnaires.
Donc en plus, la justice ne peut plus fonctionner.
Profs de juges, policiers.
Profs d'université, policiers.
Militaires.
Donc tout ça, en plus, désorganise complètement
la société.
Qui ne peut plus fonctionner. Énormément de ces personnes qui ont été arrêtées ont eu en plus leur passeport annulé, c'est-à-dire que même quand ces personnes arrivent à sortir de prison, elles ne pourront plus quitter la Turquie.
Sont coincées,
Ça, c'est vraiment typique des dictatures les plus féroces. Alors, au milieu de cette catastrophe pour les droits de l'homme, une petite bonne nouvelle concernant la romancière turque Asli Erdogan, qui n'a rien à voir avec le président, qui a été libérée. Amnesty a fait une campagne pour elle, comme pour d'autres journalistes, d'autres romanciers. Et après plus de 4 mois de détention, enfin, voilà, depuis fin décembre, elle a pu sortir de prison et retourner chez elle. Alors bien sûr, elle est toujours
assignée à
résidence, et son procès n'est absolument pas terminé. En fait, elle a bénéficié d'une sorte de remise des peines. Bon, cette romancière est très connue. Elle a écrit en prison un journal qui va probablement bientôt paraître. Bon, on aimerait espérer que la mobilisation, voilà, de tous les intellectuels en Europe, en Turquie, de toutes les mobilisations d'Amnesty et d'autres ONG ont influé sur la décision des juges du tribunal d'Istanbul. Bon, malheureusement, depuis ces quelques jours, d'autres journalistes, d'autres romanciers, d'autres intellectuels ont été emprisonnés. Asli Erdogan, quand elle a été libérée, a dit « Voilà, je ne suis qu'une écrivaine. Ma raison d'être, c'est de raconter les choses. Et j'ai l'intention, de toute façon, de me défendre comme si les lois existaient. » C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ces gens-là savent très bien que les lois n'existent plus.
Hein. L'arbitraire qui règne. C'est la bonne volonté,
voilà. Mmh. C'est uniquement, on est vraiment, on a l'impression qu'on est de nouveau, qu'on n'est plus dans une démocratie, qui était la Turquie, mais dans une dictature. Donc bientôt va être publié, donc c'est les quelques écrits qu'elle a réussi à faire quand elle était en prison. Elle dit de toute façon, tous les jours, je pense à la prison. Le silence n'était même plus à moi. Ça va être le titre probablement du recueil qu'elle va publier. Donc on se réjouit de sa libération, mais on continue à se mobiliser.
Et à la soutenir, hein, voilà, effectivement, soutenir, elle en a besoin.
On continue à se mobiliser pour ainsi toutes ces personnes qui sont emprisonnées, hein, ouais, en Turquie, dans ce pays où on a l'impression qu'il n'y a plus d'état de droit, hein, et que n'importe qui peut être arrêté sans preuve aucune. Donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Amnesty International ou Amnesty France, amnesty.fr, pour écrire au président Erdogan et pour signer nos pétitions concernant ces droits bafoués en ce moment en Turquie, parce qu'on peut penser que seules les pressions internationales pourront faire quelque chose. Ouais.
Thank you.
FM+, Amnesty International, toujours pour la dernière partie de notre émission mensuelle, avec une bonne nouvelle. Vous savez que la lutte contre la peine de mort est un des chevaux de bataille d'Amnesty. Et la bonne nouvelle, c'est que la peine de mort est de moins en moins la norme aux États-Unis. En tout cas, c'est ce que montre un rapport récent, qui dit que l'année 2016 aux États-Unis a été marquée par une triple chute concernant la peine de mort, que ce soit en nombre de verdicts, en nombre d'exécutions ou encore en termes de soutien populaire.
Eh bien voilà une bonne nouvelle.
Ben oui, voilà, ce sont les conclusions d'un rapport publié mercredi par le Centre d'information sur la peine de mort aux États-Unis, DPIC, un organisme indépendant qui fait autorité sur ces questions. Alors de plus en plus, dit ce rapport, le châtiment suprême apparaît isolé en Amérique du Nord, même s'il continue d'être théoriquement en vigueur dans deux tiers des États du pays. Ainsi, l'année devait se terminer avec 31 verdicts de peine de mort, selon la projection la plus vraisemblable. C'est le plus bas niveau depuis que la Cour suprême a déclaré anticonstitutionnelle la peine de mort en 1972, un arrêt qui avait été renversé 4 ans plus tard. Alors cela marque aussi une baisse très nette de 37% par rapport à 2015, 37% quand même. Les États-Unis ont par ailleurs enregistré seulement, entre guillemets, 20 exécutions en 2016, le chiffre le plus bas depuis 1991, très loin du pic de 1999 avec 98 exécutions, hein, donc ce qui contribue à alimenter les espoirs des abolitionnistes. Alors toutefois, la perspective que la peine de mort soit de nouveau déclarée anticonstitutionnelle par la Cour suprême s'est éloignée avec la victoire électorale de Donald Trump, qui devrait prochainement y nommer un 9e juge et permettre à la haute cour de retrouver sa majorité conservatrice. Alors seulement 5 États sur les 31 qui appliquent théoriquement la peine de mort ont exécuté cette année un condamné. Il s'agit de la Géorgie, 9, du Texas, 7, de l'Alabama, 2, du Missouri et de la Floride, 1. Voilà. Donc quand même, une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, absolument. Et alors, pour finir cette émission, comme on nous reproche parfois de ne pas parler de la France, eh bien, nous allons vous parler de Mayotte. Parce que Mayotte, on le dit souvent...
C'est un département français.
C'est un département
depuis
français.
Depuis quelques années, effectivement, où il y a pas mal de problèmes.
Où il y a beaucoup de problèmes, voilà. Et donc à Amnesty, nous sommes pour la défense des droits humains de tout le monde et de tous les petits Français.
Y compris chez nous.
Y compris chez nous, qu'ils soient à Paris ou qu'ils soient à Mayotte. Alors en ces temps de nouvelle année où on célèbre les nouveaux bébés arrivés en 2017, eh bien à Mayotte, il y en a aussi qui naissent. Il y en a à peu près entre 20 et 25 par jour. Alors Mayotte, ce département français... Dans ce département français, on en a parlé souvent, que viennent se réfugier de nombreux habitants des Comores, hein, qui est une île située à quelques kilomètres. Les Comores, pays extrêmement pauvre. Et il y a des centaines de milliers de femmes qui prennent la mer dans des embarcations de fortune, appelées des kwassa-kwassa, qui sont gérées par des passeurs, pour avoir une chance d'avoir un meilleur avenir. Et donc elles traversent la mer. Un grand nombre d'entre elles y meurent pour venir accoucher à Mayotte, ou pour venir simplement se faire soigner. Voilà. Il faut savoir que près de la moitié des patients du centre hospitalier de Mayotte viennent des Grandes Comores. Donc c'est quand même un nombre extrêmement important. Mais malheureusement, le centre hospitalier de Mamoudzou et la maternité de Mayotte ressemblent beaucoup plus à ceux d'un pays sous-développé qu'à ceux d'une ville française de la métropole. Parce qu'on a un peu tendance à oublier qu'effectivement, à Mayotte, on devrait aussi avoir la même qualité de soins. Voilà, qu'à Montpellier, qu'à Marseille, qu'à Paris, qu'à Lyon. Les médecins nous disent qu'ici, par exemple, des problèmes comme la typhoïde, la tuberculose sont des maladies qu'on traite très régulièrement. Il n'y a plus du tout de moyens. La situation est tellement catastrophique que ça fait 18 mois qu'il n'y a plus aucun acte chirurgical au centre hospitalier. Les patients doivent donc aller se faire opérer à La Réunion, mais bien sûr à leurs frais. Ce qui fait que les gens ne se font plus opérer. Quant à la maternité, les moyens sont dérisoires. Alors c'est vrai qu'il y a cet afflux extrêmement important de femmes des Comores complique la situation, d'autant plus que ces femmes arrivent souvent, bien sûr, il n'y a eu aucun suivi de grossesse, il y a souvent des pathologies qui n'ont pas été détectées, il y a le problème de la barrière de la langue, parce que, bon, déjà qu'il n'y a pas de moyens pour les frais hospitaliers, il est de dire qu'il n'y a pas d'interprète. Donc il y a un manque chronique, il n'y a pas de lit disponible. Et aujourd'hui, les femmes qui accouchent sont redirigées 3 heures après avoir accouché vers des dispensaires. Mais bien sûr, il faut qu'elles s'y déplacent et qu'elles y aillent. Une sage-femme nous dit « Les caisses de la région sont vides et depuis 10 ans, la situation s'est énormément dégradée. » Alors malgré le fait que tous les personnels de santé tirent régulièrement la sonnette d'alarme face au manque de moyens, d'ailleurs comme toutes les institutions publiques hein, à Mayotte, la situation non seulement ne s'améliore pas, mais se dégrade. Alors évidemment, tout ça en plus entraîne des dégradations des conditions de travail, des dégradations de soins, et comme souvent dans ces cas-là, ça exacerbe le racisme et les problèmes. D'ailleurs, on vous a rappelé cette année qu'il y avait des citoyens maorais qui avaient donné la chasse à des Comoriens. Donc, n'oublions pas Mayotte, parce que quand même, la responsabilité politique de la France est engagée. Et rappelons que tous les citoyens français doivent pouvoir recevoir les mêmes soins et avoir accès aux mêmes droits. Alors, à tous ces petits-enfants qui sont nés, qu'ils soient Comoriens ou maorais, qui s'appellent Aburata, Fahamoé, Faïda ou Ambi, eh ben on leur souhaite une très bonne année 2017. Et rappelons que Mayotte ne doit pas être oubliée.
Merci Adeline, merci à tous pour votre écoute et au mois prochain, au revoir.
Au revoir.
Todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana.
Nós temos o direito de vida, liberdade e do pevnosti своей особовой.